Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une reprise de l'émission Mon Paris Santé sur Mon Paris FM. Précédemment animée par Malik, c'est Laura, donc moi-même, qui animera désormais votre rendez-vous santé bimensuel. En France, près de 900 000 personnes sont touchées par les troubles du comportement alimentaire. Anorexie, boulimie et hyperphagie, un chiffre exacerbé par le confinement dans un contexte de Covid-19. L'anorexie mentale, elle, touche 1,5% de la population féminine des 15 à 35 ans. Si ces dernières décennies, cette maladie bénéficie d'une plus forte médiatisation, sa psychopathologie reste encore méconnue. De nombreuses zones d'ombre et de préjugés persistent à l'égard de cette maladie qui est souvent incomprise. Alors qu'est-ce que la maladie de l'anorexie mentale? Quelles sont ses causes et ses symptômes? Comment la prévenir et la soigner au mieux? Quels sont les défis sociétaux et médicaux actuels à l'égard de cette maladie? À ces problématiques posées, nous allons tenter d'y répondre et pour cela, je suis accompagnée de Margot Méran, psychanalyste et docteur en psychologie et psychopathologie, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Vous êtes également auteur du livre « La maladie du faux soi » qui évoque justement, on en parlait, la psychopathologie de l'anorexie. Bonjour Margot Méran et merci d'être avec nous. Je suis également accompagnée de Sarah Michel qui va pouvoir nous partager son expérience personnelle mais aussi son recul et son regard sur la maladie. Bonjour Sarah Michel, merci d'avoir accepté d'être avec nous.
Bonjour, merci à
vous. Justement, Sarah Michel, pour vous qui vivez cette maladie et pour vous qui c'est un combat quotidien, qu'est-ce que c'est pour vous l'anorexie mentale et comment est-ce que ça se traduit exactement au quotidien ?
L'anorexie mentale, ce qui me vient tout d'abord, il est question de privation et de restriction pour ma part, parce que en fait il y a différentes formes d'anorexie mentale et peut-être qu'on va y venir. Pour ma part, il s'agit de restrictions alimentaires, mais ça dépasse la question de la nourriture et pareil, peut-être qu'on y reviendra, ça me semblerait intéressant en tout cas. Donc c'est une peur aussi intense de prendre du poids et un maintien à tout prix à un poids souvent plus bas que celui attendu à un âge. Voilà. C'est ce qui me vient en premier lieu.
Donc il y a une dimension qui est beaucoup plus mentale que simplement physique avant tout. C'est ce que vous expliquez.
Oui, l'anorexie mentale, oui.
Margot Méran, vous qui êtes spécialiste du sujet, qu'est-ce que c'est exactement l'anorexie mentale? Si vous pouvez donner une définition un peu plus pour ceux qui nous écoutent.
Oui, alors une définition... définitive, c'est difficile, mais en général, effectivement, l'anorexie, donc dite mentale, et pas simplement l'anorexie qui est simplement effectivement la perte d'appétit ou l'amaigrissement, consiste à délibérément employer un certain nombre de techniques pour perdre du poids, dans la mesure où la maigreur est associée à un certain nombre de bénéfices et est vécue comme une nécessité absolue par le sujet. Donc, effectivement, quand on renvoie à l'anorexie mentale, enfin, quand on parle d'anorexie mentale, on renvoie à cette recherche délibérée de la maigreur. Et effectivement, il y a deux formes d'anorexie qui sont distinguées dans le DSM. L'anorexie purement restrictive, qui consiste simplement à se priver, enfin, essentiellement une restriction calorique assez drastique. Et l'anorexie boulimique ou mélangée à de la boulimie, accompagnée ou non de vomissements et de comportements ensuite... soit de sport, prise de laxatif ou vomissement qui permettent de compenser les crises.
Très bien. Quels sont ces symptômes? On viendra sur les causes juste après, mais pour que les gens comprennent, quels sont exactement les symptômes psychiques et physiques de cette maladie et quels sont les risques? 1% pardon, de la population qui est touchée en meurt. Quels sont les symptômes physiques et psychiques?
Pour les symptômes... physique essentiellement, c'est donc cet amaigrissement assez extrême, une peur intense de prendre du poids qui devient complètement phobique et paranoïaque, une tendance à scruter le corps de façon permanente ensuite, ce rapport d'observation assez millimétrique au corps. Donc ça peut se traduire effectivement par des comportements aussi boulimiques, d'hyperphagie, comme vous l'avez évoqué, qui sont généralement consécutifs des privations. C'est-à-dire que l'anorexie commence par soit une perte de poids qui a vraiment été choisie, soit une perte de poids accidentelle, mais qui se transforme ensuite en recherche délibérée de la maigreur. Mais c'est vrai que généralement, enfin en tout cas chez une majorité d'anorexiques, le fait de se priver pendant des mois, des années, provoque au bout d'un moment une sorte de contre-coup boulimique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signaux, on va dire, normaux d'appétit et de satiété, ce qui fait que le sujet a envie de se jeter sur des quantités assez invraisemblables de nourriture, parce qu'il est vraiment affamé, donc il y a une sorte de contre-coup
biologique. Donc c'est un dérèglement biologique,
oui.
Finalement.
Oui, ça c'est un dérèglement biologique, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est réinterprété par le sujet souvent dans les termes de la culpabilité, parce que en fait ça conforte un petit peu le sujet anorexique dans l'idée que s'il ne se contrôle pas, il a une espèce de voracité qui est quasiment monstrueuse et que donc en un sens il fait bien de se restreindre parce que autrement il va y avoir cette espèce d'appétit immaîtrisable qui va ressurgir. Et puis, au niveau psychique, ça se traduit généralement par différents symptômes. Généralement, dans la personnalité, c'est associé à du perfectionnisme, ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire la difficulté à identifier ses propres émotions. Généralement, c'est des sujets qui ont beaucoup de mal à savoir ce qu'ils ressentent, qui sont assez distanciés de leurs propres affects et qui ont tendance à les intellectualiser. Une grande sensibilité à la punition, au châtiment et assez peu de sensibilité à la récompense ou à un sentiment de contentement et de satisfaction. Et puis d'autres symptômes.
Donc est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de prédisposition à cette maladie ou non ?
Oui, en un sens, du point de vue de la structuration de la personnalité, généralement, oui, on retrouve quand même un certain nombre de constantes. C'est vrai que le fait d'avoir une personnalité plutôt une sorte de recherche d'absolu, une exigence assez élevée, effectivement ce perfectionnisme, la recherche d'une solution qui a un caractère de radicalité la plupart du temps, le fait d'avoir un caractère assez obstiné aussi, d'avoir une personnalité très volontariste. Et donc ça, c'est effectivement autant de traits de caractère qui peuvent prédisposer, on va dire, l'anorexie mentale sans la déterminer pour autant de façon causale.
Sarah, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Margot Mérang ? Vous, dans votre vécu personnel, vous, au niveau des symptômes, comment est-ce que ça se traduit, physique, mentaux ?
Oui. Oui, bien sûr, je vais rejoindre Margot. Au niveau physique, c'est une privation donc de s'alimenter correctement, enfin c'est quotidien, hein. C'est sauter des repas ou alors manger moins que ce que l'appétit voudrait. J'insisterai aussi sur l'altération de la perception qu'on peut avoir de soi, de son corps. Et il y a souvent, enfin presque toujours en fait, un manque de reconnaissance de ce qui se passe et de ce à quoi le corps ressemble vraiment, jusqu'au déni. Il y a beaucoup de rigidité. Enfin, pour ma part, j'ai quand même un fonctionnement très obsessionnel, avec cette importance de plaire, de ne pas toujours suivre ses propres choix, mais plus ceux que je crois être ceux des autres ou ce qu'on attend de moi. Donc il y a cette sensibilité au regard, aussi bien sur le physique que sur ce que je peux être ou renvoyer en termes de personnalité.
Et au niveau des symptômes physiques, est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous avez été sujette, comme perte de cheveux, aménorrhée ? Est-ce que
Alors oui, si on va de ce côté-là, c'est un long parcours pour moi. Ça a commencé, si je parle de mon expérience vraiment très personnelle, oui, j'ai eu les premiers signes, mais que j'ai identifié bien plus tard, à l'âge de 13 ans. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris de quoi il s'agissait déjà au tout début de l'adolescence. Et il y a eu... en fait, je dirais que j'ai été triste avant d'arrêter de manger. Donc, je pense qu'il y avait aussi une dépressivité latente.
Il y avait
latente.
Un fond...
Oui.
Dépressif.
Oui, une grande tristesse, beaucoup d'anxiété également, une perte de sens dans plein de choses. Et en fait, ça m'a amené peu à peu à m'arrêter de manger ou à réduire en tout cas les quantités, mais vraiment de manière drastique, jusqu'à un moment où apparemment ma santé était en danger. Et là, ça se traduisait par une perte de poids très visible, un amaigrissement très visible.
Très rapide.
Et rapide à partir d'un certain moment, oui. Ça a été progressif et finalement ça s'est accéléré. Et un jour, une psychiatre que je consultais m'a dit « Mais en fait, là, vous avez perdu le contrôle et là, ça vous échappe. » Et en effet, elle avait raison. Et voilà.
Est-ce que vous diriez que l'anorexie mentale, c'est aussi une forme de dissociation entre son corps, son esprit, une désappropriation de son corps, comme vous disiez, évoqué justement, qu'il y a une très forte distance entre ses émotions, la perception de son corps, ses affects, etc. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de dissociation du corps et de l'esprit ? Celle qui veut répondre ?
Oui, je pense que généralement, il y a cette dissociation qui préexiste au développement de l'anorexie mentale. Ce que racontent beaucoup d'anorexiques ou ce que j'ai pu trouver dans différents témoignages, effectivement, c'est l'idée qu'il y a ce rapport d'extériorité, de non-appartenance et de non-familiarité même avec le corps. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est pas seulement qu'il perçoit son corps comme une chose extérieure, mais c'est même qu'il ne s'y identifie pas tout à fait. Ça lui apparaît comme une sorte d'énigme au sens de se dire « mais ça peut pas être moi hein, ». C'est-à-dire d'une certaine façon, il n'y a pas du tout de sentiment d'évidence dans le fait que le corps pourrait refléter adéquatement la personnalité ou traduire quelque chose qui serait fidèle à la personnalité ou à la subjectivité profonde. Donc il y a toujours une sorte de regard un petit peu fasciné, un peu sidéré devant l'image, comme si l'image était cette chose un petit peu mystérieuse dont on se demande d'où elle vient, enfin l'image corporelle, hein, et en l'occurrence souvent aussi l'image qui est renvoyée par le miroir, donc vraiment l'image spéculaire. Et il y a effectivement ce caractère d'étrangeté qui va être aggravé en un sens jusqu'à des formes de dépersonnalisation assez sévères dans l'expérience de l'anorexie et la boulimie. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une tentative de contrôle, parce que si le corps est une chose en un sens dans l'anorexie, on essaie de le chosifier de façon définitive, mais d'acquérir au moins un contrôle sur lui pour que cette chose-là cesse d'être une sorte de menace en quelque sorte, quelque chose qui fait violence au sujet justement par son caractère d'étrangeté. Mais en même temps, dans et par les pratiques, il y a une sorte de dissociation qui est toujours plus profonde, et où ce qui est intéressant, c'est que effectivement aussi l'alexithymie qu'on a déjà évoquée s'aggrave parce que l'émotion qui tend à dominer, c'est celle de l'anxiété. Donc ça devient effectivement une espèce de logique addictive où les crises de boulimie ou les comportements restrictifs permettent de réduire l'anxiété, mais où en même temps donc ça crée des phases de coupure, effectivement des phases dissociatives qui sont assez intenses, et où en même temps du coup l'anxiété revient et il n'y a plus que cette anxiété qui est ressentie. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand vous disiez, Sarah, que à l'origine vous identifiez quand même que l'émotion était une émotion de tristesse. Parce que c'est assez rare que les sujets anorexiques soient conscients de cette tristesse, d'une émotion qui est presque celle d'un deuil, comme point de départ en fait de l'anorexie.
Et du coup maintenant, pour évoquer les causes, pourquoi est-ce que ça se répercute sur le corps, son image, la nourriture ? Pourquoi est-ce que ce mal-être se répercute ? Est-ce qu'il y a une forme de conflit qui, dès le départ, est instauré, je ne sais pas, dans le contexte familial avec la nourriture, ou pourquoi est-ce que ça se répercute à ce niveau-là, au niveau des causes ?
Je pense que, comment dire, l'image, justement, par son caractère d'étrangeté, est quelque chose qui paraît manipulable, c'est-à-dire que souvent, les sujets anorexiques sont quand même des enfants qui ont dû apprendre à dissimuler leurs émotions énormément auprès de leurs parents, puisque c'est des enfants qui devaient répondre à un certain nombre de besoins déjà de leurs parents en permanence, soit dans le rôle du thérapeute, soit dans le rôle de l'enfant qui allait accomplir des miracles, de l'enfant brillant, précoce, etc. Donc ces enfants qui ont été parentifiés, comme on le dit parfois, par leurs propres parents, et qui du coup ont dû apprendre à dissimuler énormément ce qu'ils étaient, ou leurs propres vulnérabilités, leurs propres besoins et leurs demandes. Je pense que par la suite, à la puberté, en un sens, la jeune fille est un peu subjuguée par sa propre image, et elle se dit que si elle est subjuguée elle-même par son image, elle peut subjuguer les autres avec cette image, et que c'est peut-être la technique de dissimulation par excellence. Donc ça continue en fait en réalité une logique qui a probablement été entamée dans l'enfance et qui était celle de de renvoyer à l'autre effectivement une image de maîtrise, une image d'absence de besoin. Enfin, c'est-à-dire en un sens, et oui, le corps anorexique, c'est un corps qui dit « je n'ai besoin de rien », en quelque sorte. Qui affirme « je n'ai besoin de rien » et qui peut se tenir au-dessus de ses besoins biologiques. Donc, pourquoi le corps est utilisé ? À la fois parce que les femmes sont plus incitées généralement quand même à passer par, on va dire, l'image corporelle pour se présenter socialement, pour s'accomplir socialement. Donc, c'est beaucoup plus évident pour une femme d'utiliser cette image. Et aussi, je pense, parce qu'il y a cette logique de dissimulation qui existe avant l'anorexie et qui, en un sens, trouve une forme de perfectionnement ou de parachèvement dans on va dire, la technique du corps ou dans le fait de sculpter vraiment une image à l'adolescence qui n'était pas possible dans l'enfance, parce qu'un enfant ne peut pas avoir un tel contrôle de son corps et c'est presque une possibilité qui est découverte à l'adolescence.
Donc c'est une forme d'anxiété qui devait être rejetée, qu'on a intériorisée en étant enfant et qu'on rejette à l'adolescence, on se transforme, etc. C'est un peu ce que...
Je pense que c'est une demande affective, plutôt des besoins d'enfants qui ne pouvaient pas vraiment s'exprimer parce que ça se traduisait par une forme de surcharge pour les parents de façon immédiate et un rejet. Quelque chose qui ne pouvait pas être accueilli, qui ne pouvait pas être entendu. Et du coup, l'enfant a pris l'habitude de taire, vraiment de rentrer en lui ses émotions. Et en un sens, il a intégré que c'était la seule façon qu'il avait d'exister, d'être accepté par les autres, en tout cas d'être toléré presque par les autres, de faire en sorte que sa présence ne soit pas étouffante pour les autres. Et donc je pense que, encore une fois, il y a plus une forme de continuation. Il n'y a pas vraiment une rupture dans le comportement anorexique à l'adolescence, mais simplement la jeune fille se dit qu'elle va dissimuler encore plus. Et probablement aussi ses désirs, plus seulement ses besoins, parce qu'en plus, il y a toute la sexualité qui apparaît à ce moment-là. Et donc, il y a aussi tous ces désirs qui sont vécus comme coupables, qui sont probablement là aussi vécus comme quelque chose qui pourrait étouffer les autres ou être trop pour les autres. Et donc, l'amaigrissement, c'est une façon d'affamer ces désirs et puis de les masquer, en fait.
Sarah, comment est-ce que ça fait résonance dans ce qu'explique Margot Mérand ? Comment est-ce que vous le recevez ?
Oui, oui, bien sûr. Ça,
au niveau
ça
des causes.
Au niveau des causes, oui. Alors souvent aussi, on a tendance à dire qu'il y a un élément déclencheur ou en tout cas plusieurs choses qui arrivent qui font que, donc un traumatisme, un événement en tout cas marquant qui vient bouleverser la vie du sujet et puis il y a les premiers symptômes ou un régime qui est entamé et puis finalement ça dégénère. Pour ma part, j'ai pas de souvenir j'ai peu de souvenirs de mon enfance et donc je sais pas bien ce qui dans mon enfance aurait pu causer l'anorexie. En tout cas, dans ce que dit Margot, là où je me retrouve, c'est quand même des besoins et des émotions qui devaient sûrement être tues auprès de mes parents ou des adultes référents autour de moi. Voilà, j'étais la petite fille discrète, sage et qui plaisait comme ça à tout le monde parce que voilà, j'embêtais personne et c'était bien. Et puis en fait, quand j'ai commencé à être triste et à m'interdire de manger, à réduire vraiment mon alimentation, pareil, je l'ai caché, hein, c'était tu et j'en avais une grande honte. Et en fait, ça a explosé aux yeux de tout le monde quand j'ai atteint un poids très bas qui ne pouvait plus être nié par mon entourage avant tout.
Et justement, vous l'évoquiez que vous aviez honte. Est-ce que c'est dans la société actuelle, c'est difficile à porter de subir cette maladie ? Est-ce que c'est au regard des gens, même de sa propre famille, est-ce que ça peut être est-ce que c'est une maladie qui est mal jugée, qui est incomprise et qui est taboue ?
Alors moi j'en parle pas, mais parce que je parle pas beaucoup de mes émotions auprès de mes proches, même amis très proches, hein, et encore je crois que si, de plus en plus, mais c'est un long travail, psychothérapeutique avant tout, et voilà, un cheminement personnel. Mais c'est très difficile d'en parler pour moi, mais on voit, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a d'autres personnes qui en parlent de plus en plus librement, qui s'expriment vraiment, qui essaient de sensibiliser comme ça. Mais pour ma part, je crois que assez peu de personnes, finalement, sont au courant de ce que je vis depuis très longtemps, hein, depuis mes 13 ans. Et j'en aurai 30 la semaine prochaine. Donc, en fait, ça dure. Et pour moi, c'est bien comme ça. Je ne souhaite pas être vue comme la fille qui souffre d'anorexie. Enfin, j'ai pas du tout envie qu'un certain regard soit posé sur moi par le prisme de la maladie mentale.
Donc, il n'y a jamais eu de remarques déplacées ou quant à votre apparence qui peuvent des fois poser question. Il n'y a jamais eu de...
Si. Si, si. Il y a eu des remarques, il y a eu des questions voilà, que j'évite, auxquelles je réponds enfin, de manière comment dire, approximative, ou en tout cas je bricole une réponse. Mais
et vous n'avez pas à vous justifier sur votre...
Non. Mais bien sûr qu'il y a des remarques et des questions.
Margot, est-ce que cette maladie dans l'espace public, on va dire, est-ce que c'est une maladie qui est de plus en plus comprise ou au contraire, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus au niveau des préjugés, au niveau du fait qu'elle est un tabou? Est-ce que c'est parce que ça touche au corps et à l'apparence? Ou pourquoi
Est-ce que c'est une maladie qui est comprise? Ça, c'est une question assez difficile. C'est une maladie qui est excessivement difficile à comprendre, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une variété, même quand Sarah a parlé, j'étais en train de me dire que c'est vraiment fascinant parce qu'il y a une hétérogénéité des témoignages et des manières de vivre l'anorexie mentale. En réalité, quand on connaît un peu la clinique, on s'aperçoit que c'est pas du tout uniforme. Et par exemple, il y a des sujets qui s'identifient beaucoup à leur maladie, avec l'idée qu'il y a une identité de malade et qu'en un sens, ils la perdent, ils ne seront plus rien. Et là, ce qui apparaissait dans le témoignage de Sarah, ce n'était pas du tout cette idée d'une identification à la maladie. Donc, il y a vraiment une complexité. Je me rappelle avoir parlé avec un psychiatre qui s'appelle Pablo Otadoro, qui exerce à Montsouris. Et avec Maurice Corcos au service de psychiatrie infanto-juvénile, et qui me disait que beaucoup de psychiatres avaient du mal avec les patients anorexiques parce qu'ils les voyaient comme des patientes, essentiellement c'est quand même des femmes, arrogantes, qui défiaient l'autorité médicale, qui en un sens avaient tout pour plaire et tout pour réussir et qui crachaient un peu dans la soupe aussi, et que donc il y avait un aspect toujours un petit peu révoltant parce que les jeunes filles anorexiques sont souvent des filles qui sont brillantes, qui réussissent à l'école, qui sont jolies, qui viennent de bonnes familles, enfin il y a en plus toute cette idée là qui fait que parfois elles sont insupportables pour les psychiatres. Donc c'est pas du tout évident que les psychiatres réussissent à comprendre vraiment leurs patientes aussi. Je crois que ça requiert un certain niveau de spécialisation et une certaine empathie que tous les psychiatres n'ont pas forcément de façon très spontanée. Et je crois que c'est une maladie qui est vraiment labyrinthique. Enfin, c'est-à-dire que même moi, dans la façon de chercher, je l'ai vu comme une énigme. Enfin, Hilde Bruch aussi, qui est une des spécialistes, une psychiatre, psychanalyste, dont je me suis beaucoup inspirée, parle de l'énigme de la cage dorée. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est très, très énigmatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de l'avoir comprise et en fait, on s'aperçoit toujours qu'on est toujours... Qu'on en est encore à un niveau d'interprétation superficielle et qu'il y a une nouvelle contradiction à lever, qu'il y a un nouveau paradoxe qui apparaît, qu'il y a une... Donc, je ne suis pas certaine que ce soit une maladie très comprise. Elle est souvent ramenée de façon un peu réductrice, soit à des optiques féministes, soit à l'imagerie aussi publicitaire ou de la mode, enfin, comme si c'était causé, en fait, par ces choses-là. Ça, c'est une question intéressante. Je pense que ces modèles de beauté sont instrumentalisés par la démarche anorexique, mais qu'ils ne sont pas des causes, d'anorexie mentale à proprement parler. Seulement, l'anorexique en est consciente et donc, en un sens, elle en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est consciente de ce qui est associé socialement ou dans l'imaginaire collectif à la maigreur, et donc elle en fait quelque chose dans l'expérience de sa maladie, dans l'image qu'elle renvoie d'elle-même, pour ce lapsus, dans le jugement qu'elle cherche à provoquer chez les autres, parce qu'il y a aussi là beaucoup de tentatives de maîtrise du jugement des autres. C'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant quand Sarah disait tout à l'heure que les attentes anticipées ou devinées des autres primaient toujours les besoins du sujet, ou voilà, ce qui pourrait être spontané. Et donc je pense que l'anorexique est consciente de ce à quoi la maigreur est associée, qui n'est pas forcément honteux d'ailleurs, parce qu'on parlait de honte dans l'espace public, mais en réalité ça peut être excessivement valorisé. C'est aussi la raison pour laquelle l'anorexie mentale est sous-diagnostiquée en réalité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être vraiment complimentées, récompensées, encouragées quand elles vont perdre du poids, et ce ne sera absolument pas perçu comme quelque chose de maladif.
De la part du cercle proche, encouragée. ou...
De tout le monde, en fait. En réalité, ça peut être rentrer dans une boutique de vêtements et se faire encenser par deux vendeuses qui trouvent absolument spectaculaire qu'on puisse enfiler des 32, des 34, des XS, que tout aille comme un gant à une personne qui est extrêmement maigre. Ça peut être effectivement un certain milieu social, bourgeois, par exemple. Effectivement, on a... Muriel Darmon a bien montré que c'est plus vraiment dans la grande bourgeoisie, dans la bourgeoisie parisienne, plus la classe sociale est élevée, plus la maigreur là aussi est valorisée chez les femmes, comme presque un stigmate effectivement d'oisiveté, de luxe, de distinction sociale en réalité. Donc dans différents milieux, ça peut être un objet de désir masculin aussi. Parce que ça donne une apparence juvénile à la jeune femme, ou parce que donc en fait en réalité c'est plus un objet de désir et de valorisation qu'un objet de honte en premier lieu, la maigreur.
Mais dans les deux cas où c'est valorisé et où c'est plutôt vécu comme une honte, c'est les mêmes processus psychiques et les mêmes répercussions physiques. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui est anorexique dans le cas où elle plus fait valoir et elle se valorise au travers de ça, elle a le même combat, on va dire, qu'une personne, au contraire, qui le vit dans la honte. Ou est-ce qu'elle va être moins, j'allais dire, torturée par ses pensées négatives ? Est-ce que... Je ne sais pas si vous comprenez réellement le sens de ma question.
Je pense que ça, c'est une question très difficile parce qu'il y a des patientes pour lesquelles ce n'est pas du tout évident qu'elles recherchent une forme de validation à travers la maigreur. Il y a plus une démarche de coupure, d'isolement et de rejet presque agressif de l'autre, au sens de se soustraire de façon un peu agressive au jugement de l'autre et à toute forme d'interaction. Et il y a des sujets pour lesquels effectivement il y a une conscience de la valorisation sociale de la maigreur, de l'esthétisation de la maigreur, et qui du coup en joue. Mais là aussi, en un sens, il y a un rejet de l'autre, il y a une façon de se soustraire à l'interaction avec l'autre, parce que c'est orienté, c'est prédisposé le jugement de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de s'inscrire dans une relation où il y aurait une forme de spontanéité du sujet et une absence de certitude quant à la possibilité d'être compris ou aimé par l'autre, et une capacité à tolérer cette absence de certitude et à laisser l'autre effectivement se montrer tel qu'il est et apprécier ou ne pas apprécier, comprendre ou ne pas comprendre. Dans tous les cas de figure, l'anorexique cherche à, là pour le coup, presque contraindre le jugement de l'autre par une image qui a effectivement un certain caractère de fixité, de rigidité, dont elle s'attend à ce qu'il soit interprété ou valorisé d'une certaine façon. Mais il y a d'autres anorexiques qui rejettent complètement même ça et qui, en un sens, font de l'amaigrissement, pour le coup, un mode de vie ascétique qui les coupe même par défaut des interactions, et donc il n'y a même pas cette instrumentalisation ou cette orientation, on va dire, du jugement de l'autre. Donc c'est vrai que je crois, c'est vrai qu'il y a des anorexies qui peuvent être très douloureuses et très honteuses, qui peuvent être vécues dans l'isolement, surtout quand la maigreur a atteint un certain stade et qu'elle a complètement cessé d'être esthétique, parce qu'il y a en plus, il y a aussi un petit peu cette hypocrisie sociale que la maigreur est esthétique, mais jusqu'à un certain point. Et puis il y a d'autres anorexies qui peuvent être peut-être un peu plus jubilatoires superficiellement, dans la mesure où il peut y avoir cette valorisation sociale, mais je crois qu'en réalité ça reste extrêmement douloureux dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que là, même la petite satisfaction qui peut être tirée de ça, de cette maîtrise un peu superficielle du jugement de l'autre, n'est pas quelque chose qui supprime en fait l'expérience douloureuse pour le sujet. Et le fait que de toute façon ce soit jamais perçu même comme une solution, puisque l'anorexie mentale échoue toujours à être une solution satisfaisante et durable. Mmh. Donc le sujet court après quelque chose qui n'existe pas.
Très bien, donc maintenant on va passer à la seconde partie, donc sur le parcours de soins et comment prévenir au mieux la maladie. Et nous clôturons sur les défis actuels concernant cette maladie. Donc Sarah, est-ce que vous expliquez tout à l'heure que c'est un long cheminement pour se rendre compte justement qu'il y a quelque chose de plus profond que simplement par exemple perdre du poids. À quel moment est-ce que vous êtes rendu compte de la gravité entre guillemets de la situation et que vous aviez une maladie ? Est-ce qu'il y a eu un moment de prise de conscience, un moment de bascule ?
Il y a eu un moment de bascule, oui. Et je dirais qu'il est intervenu il y a seulement 3 ans. Alors que, comme je le disais, je suis plutôt sur ça fait plus de 15 ans hein, qu'il y a quelque chose qui se passe et que j'ai des symptômes clairement associés à l'anorexie mentale. Et donc, il y a 3 ans, tout simplement, c'était un jour où j'étais en stage et j'ai failli... Je sentais que j'allais tomber dans les pommes à un moment où ce n'était vraiment pas attendu, quoi. Enfin, ça ne pouvait pas se passer. Et donc, je suis sortie de la pièce dans laquelle j'étais avec... Des collègues et j'ai dit je me sens mal, je pars et je suis sortie, on est venu me rattraper et voilà, et là j'ai senti que bon en fait c'était, je faisais une grosse hypoglycémie, je pense c'est tout, mais plus importante que d'habitude et moins bien tolérée que d'habitude alors que j'avais largement, enfin c'était quelque chose de quotidien et de très fréquent.
Et là donc vous avez eu peur et vous vous êtes dit qu'à ce moment-là c'était plus profond que, enfin vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Simplement.
Oui. Et là, j'ai pris rendez-vous chez un médecin généraliste parce que je me suis dit mince. Là, si ça m'empêche dans mes études, ça va être un problème. J'investissais énormément mes études. Elles étaient excessivement importantes pour moi. Et il était hors de question que ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps ait une quelconque incidence sur la poursuite de mes études et sur la réussite de mes études. C'était mon avant-dernière année. Il fallait que ça marche, il fallait que ça tienne. Et j'avais tenu jusque-là. Voilà, j'avais à peu près 25-26 ans à l'époque. Ouais, et voilà. Donc j'ai consulté un médecin. J'ai dit, je me suis sentie mal la dernière fois. Je viens vous voir juste pour avoir une prescription de prise de sang pour voir si j'ai pas quelques carences. Bon, voilà. Et quand le médecin m'a vue, je pesais pas lourd, objectivement. Moi, je voyais pas, hein, mais voilà. Et elle m'a dit, oui, on va faire une prise de sang, mais on va aussi entamer une prise en charge beaucoup plus poussée et sérieuse. Et elle m'a donné rendez-vous la semaine suivante et a commencé un parcours médical beaucoup plus sérieux. Enfin, a commencé un parcours médical tout court parce qu'avant, ça n'existait pas.
Donc pendant 12 ans, aucun corps médical ou même vous-même ou même vos proches vous ont alerté sur la situation en disant qu'il y avait quelque chose qu'il fallait régler ou prendre en charge.
Non, il n'y avait pas d'intervention, d'intervenant médicaux à ce moment-là. Il y avait un intervenant, enfin un soignant autour de moi, un thérapeute, c'était mon psy que j'avais consulté, que j'avais commencé à avoir pour d'autres raisons qu'un problème lié à la nourriture. Et voilà.
Donc, je rappelle, seulement une personne sur 7 souffrant de troubles du comportement alimentaire est diagnostiquée. Margot Méran, comment prévenir l'anorexie mentale au mieux ? Justement, ce que disait Sarah, rester 12 ans sans réellement prendre conscience de l'ampleur de la situation.
Oui, là, pour le coup, la question de la prévention ou de la prise en charge précoce est un petit peu difficile parce qu'il y a des normes sociales sur lesquelles, pour le coup, les thérapeutes ou... les équipes médicales n'ont pas vraiment de prise, donc c'est un problème et au niveau de la prévention et au niveau de la rémission. Une des choses qui m'ont particulièrement intéressée sur la question de la rémission, c'était comment guérir dans une société, on va dire, qui n'est pas particulièrement saine en termes de rapport effectivement à l'alimentation, à l'image chez les femmes, à l'image du corps. Donc je crois que c'est la même question qui se pose en réalité. Dans la rémission, le sujet apprend à avoir une certaine distance par rapport à toutes les conversations qui gravitent autour de la nourriture entre les femmes. Et, donc en un sens, le sujet doit être plus sain qu'un sujet normal ou qu'un sujet moyen, ou qu'une femme qui a un rapport effectivement... Enfin, on va dire une femme moyenne qui a un rapport au corps qui n'est peut-être pas d'ordre anorexique à proprement parler, mais qui est quand même aux marges, vraiment aux marges de la psychopathologie. Donc il y a une exigence là de santé qui est supérieure à l'idée de la santé qu'on se fait même dans la norme sociale, donc c'est extrêmement difficile. Par rapport à la prévention, je crois que il faut essentiellement être attentif à des sujets qui s'évertuent à se cacher et à se dissimuler, qui en un sens du coup... Enfin, tout le paradoxe de l'anorexie mentale, c'est que c'est des sujets qui, en réalité, font des appels à l'aide assez criants, assez évidents. Mais de façon, effectivement, un peu secrète, de façon un peu discrète. Donc il faut beaucoup d'attention à l'autre, en réalité, un certain sens de l'observation, de l'empathie, pour ne pas se méprendre, encore une fois, ne pas avoir l'impression superficiellement que c'est de l'orgueil qui se manifeste. Et il ne faut pas avoir la vanité non plus de jalouser ou d'envier ce que la personne anorexique a. Donc en réalité, il faut passer beaucoup de couches de réactions, soit narcissiques, soit sociales, soit simplement d'indifférence à l'autre, pour réussir à comprendre la demande d'aide qui est inscrite quand même dans l'anorexie mentale. Et ça, je voulais le préciser tout à l'heure, c'est vrai que je disais, c'est souvent des enfants qui devaient ne pas être une charge pour leurs parents et qui du coup trouvent dans la maigreur une façon de dissimuler leurs besoins, leurs faiblesses. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le corps, plus il est amaigri, enfin plus il devient aussi fragile, vulnérable, plus la prise en charge en institution est nécessaire aussi. Donc c'est à la fois une manière de dissimuler ses besoins et aussi ce qu'on voit en psychiatrie ou ce qu'on voit dans la clinique, c'est que c'est des jeunes filles qui sont presque retombées dans une position d'enfant, où elles ont besoin du coup d'avoir des soins autour d'elles en permanence, où elles se mettent en danger de façon vitale, et donc elles finissent par contraindre l'institution psychiatrique, à défaut d'avoir réussi à contraindre leurs parents en quelque sorte, les contraindre à s'occuper d'elles et à prendre soin d'elles, comme en un sens on ne s'est jamais occupé d'elles quand elles étaient enfants. Donc il y a aussi une forme d'enfance à retardement, de prise en charge, de soins à retardement. Donc oui, pour la prévention, je crois que c'est difficile de dire autre chose que pour les familles d'être attentives à ce qui fait tout pour se montrer comme un « je n'ai besoin de rien », mais qui en réalité au fond est un appel à l'aide totale.
Et est-ce que dans certains cas, certains psychothérapeutes, psychologues ou même médecins peuvent passer du coup à côté d'un réel appel à l'aide ou d'une maladie anorexie mentale, parce que justement ils peuvent être, comme vous le disiez, trompés entre guillemets par les marqueurs culturels, sociétaux? Est-ce que ça arrive, c'est un contexte qui peut arriver souvent?
Ça, je pense pas que les médecins soient vraiment dupes. Ils sont quand même habitués à repérer l'anorexie mentale, ses différentes manifestations. Et encore faut-il qu'une personne consulte et manifeste aussi un désir d'être aidée par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je pense pas quand même que la majorité des psychiatres soient trompés par ça. Je pense qu'en revanche, il faut prouver à la personne anorexique qu'on est capable de l'aider. Et ça, c'est probablement le plus grand défi. Parce que diagnostiquer, voir qu'il y a une anorexie mentale, ça, c'est pas très difficile. Mais montrer à l'anorexique qu'on ne sera pas d'aucun secours, qu'on ne sera pas dans l'incompréhension ou dans une absence de ressources. Parce que souvent, quand même, l'idée de l'anorexique, c'est à la fois l'appel à l'aide et en même temps, son expérience lui a montré en quelque sorte que les autres étaient décevants et qu'ils n'étaient pas vraiment en mesure de l'aider, de lui prêter assistance. Donc, pour pouvoir montrer à une anorexique qu'on est capable de faire quelque chose pour elle, dans la mesure où souvent, en plus, elle est très intelligente et qu'elle a beaucoup intellectualisé les choses, beaucoup analysé les choses et donc elle a déjà aussi le sentiment d'avoir tout compris à tout, d'avoir fait le tour intellectuellement des choses. Il ne faut pas s'inscrire sur un échange, enfin sur le plan d'un dialogue purement intellectuel, parce qu'on n'a pas grand-chose à lui apprendre en fait de ce point de vue-là, en règle générale. Il faut réussir à communiquer à un autre niveau et à lui prouver à ce niveau-là qu'elle n'a peut-être pas tout saisi d'elle-même, qu'elle a peut-être encore des besoins, effectivement.
Et quand vous dites à un autre niveau, ça peut être quel niveau?
C'est un niveau essentiellement affectif. Mais par rapport à des jeunes filles qui sont assez déstabilisantes parce qu'elles renvoient vraiment une image de maîtrise et même de maîtrise dans le dialogue. Enfin, généralement, il y a une fluidité aussi au niveau du discours. Le discours est très construit, très cohérent, très logique. Donc ça, c'est toute une technique, je crois, aussi, effectivement. Et puis, il y a aussi une prise en charge au niveau du corps. Enfin, c'est ça qui est intéressant parce que j'ai eu beaucoup d'ateliers, effectivement, de massages, par exemple, de choses qui permettent de détendre la personne et de la faire exister autrement justement que par le discours ou par l'intellectualisation des choses. Oui, effectivement, je pense qu'il faut ces différents biais pour essayer de toucher une personne anorexique.
Sarah, est-ce que vous avez déjà été pris en charge dans une psychothérapie ou même est-ce que vous avez déjà été hospitalisée dans votre parcours personnel?
Alors oui, j'y faisais allusion un peu plus tôt. Oui, j'ai entamé une psychothérapie il y a quand même maintenant un certain temps, hein, de nombreuses années. J'ai consulté un médecin, comme je vous l'ai dit, il y a seulement 3 ans. Donc en fait, c'est récent. En revanche, j'ai refusé une hospitalisation à laquelle on m'encourageait pourtant très très vivement.
Une hospitalisation complète ou une hospitalisation de jour complète ?
Non, complète. Complète dans un service spécialisé. Alors il y a assez peu de services spécialisés pour les adultes, en tout cas en France et voilà, ne serait-ce qu'en Île-de-France. C'est difficile d'y avoir une place, c'est aussi difficile d'accepter d'y aller. Enfin, pour moi ça a été très difficile et j'ai refusé et je n'y suis pas allée. Mais voilà, je pense que je me suis un peu mise à dos certains de mes des professionnels de santé qui gravitaient autour de moi à ce moment-là, hein, qui disaient que c'était une décision complètement irraisonnable et irresponsable. Et j'ai eu un grand soutien de mes parents qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagnée. Ils y sont pour beaucoup dans le fait que ça aille mieux aujourd'hui. Mais oui, j'ai refusé l'hospitalisation.
Vous avez refusé parce que c'était trop brutal pour vous de changer totalement ? Vous aviez peur de...
Ah oui, ça me terrorisait. Et puis j'en connaissais les contours de cette hospitalisation. Enfin, je savais ce qui se passait, comment ça fonctionnait, par des témoignages, par des connaissances, des amis. Et puis parce que je m'étais intéressée à la question, donc je savais à quoi m'attendre. Et j'estimais que c'était pas du tout comme ça que j'allais aller mieux. Je ne me voyais pas du tout là-dedans et je pense que ça aurait été pire pour moi. Mais attention, enfin, je parle de moi.
Mais il s'agissait d'une clinique privée ou d'un hôpital en service pédiatrique, endocrinologique ?
Alors là, c'était en l'occurrence, on me proposait une hospitalisation dans un hôpital public parisien, dans un service de renutrition clinique. C'était pas de la psychiatrie, ni de la dicto ou quoi, non, c'était un renutrition clinique parce que, en fait, voilà, j'avais un poids qui nécessitait une prise en charge. Médical pour reprendre du poids avant d'entamer toute autre forme de travail psychothérapeutique. Très pour bien. Sortir de la zone de danger vitale.
Et ce que vous avez pu en entendre, que vous disiez par les témoignages que j'ai lus, etc., c'était des témoignages qui étaient plutôt négatifs sur le sujet ?
En tout cas, c'est une prise en charge assez contraignante. Enfin, voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. On est très cadré dans ce genre de service.
Margot, quel est le meilleur moyen de guérir ou quel est le parcours de soins le plus pertinent au regard de cette maladie ? Est-ce que c'est plus une hospitalisation complète, une hospitalisation de jour, une psychothérapie ? Quelle est la meilleure alternative, on va dire ?
Là, effectivement, ça dépend quand même du sujet. Je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être assez réceptifs au cadre et au fait d'être carrément infantilisé, hein, même dans ces services, parce qu'il y a vraiment une infantilisation, une forme de régression par rapport à ça. Mais il y a des personnes auxquelles ça fait du bien, le fait d'être coupé de leurs parents aussi dans ces moments-là, parce que du coup, l'hôpital permet vraiment une rupture avec la famille. Donc ça dépend aussi du profil familial, en quelque sorte, et la nécessité pour l'enfant ou l'adolescent d'être vraiment séparé. Parfois c'est la seule manière d'avoir un espace à soi, en un sens, hein, quand même l'hospitalisation, mais c'est pas il y a des sujets qui peuvent trouver une façon de se couper ou de s'isoler autrement, qui sont peut-être un petit peu plus autonomes. Et je crois que ce que disait Sarah, elle est quand même dans ce sens-là, ou comme par exemple, comme par rapport aux études, aussi une chose que j'entends, c'est que quand vous disiez, il était hors de question que ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête remette en question la réussite de mes études, ça c'est pas du tout évident pour tous les anorexiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sujets anorexiques qui vont jusqu'à sacrifier parfois ce que Muriel Darmon appelle le front culturel, c'est-à-dire vraiment la culture de l'esprit, pas seulement la culture du corps, et la réussite professionnelle à la maigreur. Et il y a des sujets qui, et généralement c'est ceux qui n'ont pas vraiment besoin d'être hospitalisés, qui sont peut-être un peu plus autonomes dans leur parcours de soins, qui essaient quand même toujours de trouver une sorte d'équilibre et qui ne veulent pas que la maladie compromette non plus un certain nombre d'objectifs qui lui sont extérieurs. Donc c'est des sujets qui restent quand même assez rationnels, assez méthodiques, on va dire, et qui ne vont pas aller jusqu'au stade voilà, d'un amaigrissement qui serait un risque, enfin une menace vraiment vitale, quelque chose qui les déposséderait totalement d'elles-mêmes ou de leur capacité à s'inscrire dans le monde. Donc là aussi, il y a des formes d'anorexie qui sont plus ou moins modérées. Selon que le sujet est plus ou moins capable de modérer sa propre anorexie, le parcours de soins ne sera pas forcément le même. En revanche, une chose dont je suis absolument convaincue, c'est qu'il n'y a pas une thérapie vraiment unilatérale qui peut, ou unidimensionnelle qui peut fonctionner. Généralement, ça peut être une psychothérapie alliée à la prise d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs ou de médicaments qui permettent de dormir, alliée à un certain nombre de pratiques corporelles. C'est-à-dire qu'il y a là, pour le coup, les techniques de soins ne doivent pas s'exclure. Il y a une vraie complémentarité, je crois, pour traiter l'anorexie mentale.
Et dans le milieu public, quel est votre regard au regard des hospitalisations qui sont faites dans des établissements publics, dans des services pédiatriques, endocrinologiques? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de soigner cette maladie? Est-ce que c'est approprié ou... Parce que, en réalité, les personnes qui sont sujettes à cette maladie, parfois ça peut être très tôt. 13 ans, c'est quand même très jeune et on est mineur à cette époque. Ça peut être des hospitalisations qui peuvent être contraintes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de... Enfin, une bonne approche, du moins. Est-ce que ça répond aux défis actuels de cette maladie?
Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des sujets. Il y a des sujets qui sont assez sensibles et pour lesquels, encore une fois, la technique de l'isolement est vraiment une bonne technique. C'est-à-dire que c'est la seule façon de couper souvent un lien fusionnel, d'ailleurs généralement avec la mère, qui sans ça ne peut même pas être conscientisée. C'est-à-dire que la jeune fille n'est même pas consciente d'avoir un lien aussi symbiotique avec sa mère, que la mère ait une telle emprise sur elle. Donc parfois l'hôpital peut être nécessaire pour ça. Maintenant, oui.
Est-ce que dans un autre cas, ça peut être plus destructeur, entre guillemets, qu'autre chose? Le fait d'être contraint, de devoir être isolé, de ne pas avoir de relation avec ses proches, ses amis, de ne plus avoir son téléphone jusqu'à temps qu'on reprenne du poids. Est-ce que ça peut être quelque chose de traumatisant pour certains sujets? À l'inverse, ça peut être quelque chose de bénéfique pour d'autres?
Traumatisant, je pense pas. Mais je pense que... comment dire, l'hospitalisation déclenche aussi parfois une forme de lâcher prise qui ne peut pas forcément avoir lieu hors cadre hospitalier. Il y a des dépressions aussi qui sont d'ailleurs souvent le signe que ça commence à aller mieux, ce qui peut être assez troublant pour les proches ou pour la famille. Parce que le sujet peut accepter dans un cadre hospitalier de commencer à vraiment relâcher le contrôle. Après, du coup, ce sont des sujets anorexiques qui sont entre eux. Et donc ça, là, la question se pose quand même de savoir dans quelle mesure c'est profitable à long terme d'être dans un service avec d'autres patients anorexiques et de pas pouvoir guérir en étant confronté au monde extérieur, justement. Enfin, c'est-à-dire que quel est le rappel du principe de réalité dans le cadre hospitalier, c'est-à-dire du monde extérieur? Est-ce que c'est le psychiatre qui joue ce rôle, l'équipe infirmière peut-être? Mais quand même, il y a un vrai défi ensuite dans la confrontation au monde extérieur. Je ne sais pas dans quelle mesure l'hôpital permet vraiment de préparer le sujet à ça. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand les personnes sortent de l'hôpital, elles reperdent tout le poids qu'elles ont été contraintes de reprendre à l'hôpital. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas forcément énormément de réussite thérapeutique dans ce cadre-là, mais je ne sais pas si c'est le cadre en lui-même qui en est responsable ou si c'est seulement la maladie qui est extrêmement difficile aussi à traiter.
Parce que dans certains cas, c'est des hospitalisations qui peuvent durer de longs mois, voire même 6 mois parfois. Donc, comme vous le disiez, le principe de la réalité, comme la personne qui est sujette à cette maladie n'est pas totalement déconnectée de la réalité et fait passer aussi ses ambitions professionnelles aussi, qui sont très importantes pour elle, ça peut faire beaucoup peur de devoir choisir entre guillemets entre continuer son parcours professionnel. Il peut y avoir ce dilemme aussi entre... Je pense que c'est ce qui a joué peut-être dans votre cas.
Oui,
Sarah.
Oui, bah, j'avais très peur de mettre certaines choses entre parenthèses. Enfin, c'est même pas de la peur, c'était un refus. Il fallait que ça continue et encore une fois, il fallait que ça ne se voit pas trop. Alors même que physiquement, ça se voyait certainement, mais il ne fallait pas qu'il y ait de conséquences sur mes projets et sur ce qui était en cours. Et puis, je me disais que c'était pas ça qui allait m'aider. Enfin, moi, je considérais le chemin de la guérison autrement. Donc, je me suis entourée des personnes soignantes hein, que j'estimais nécessaires à ma guérison, mais à l'extérieur, en ville, hein, en ambulatoire, comme vous voulez. Mais le cadre hospitalier, non, c'était trop.
Donc, après ce refus, vous êtes tournée vers une psychothérapie, vers une clinique spécialisée en hospitalisation de jour. Quelle a été votre démarche suite au refus en hospitalisation complète?
Alors, la psychothérapie avait déjà commencé, donc elle s'est poursuivie. J'ai continué à voir très très souvent ce médecin généraliste à qui j'avais demandé une prise de sang assez naïvement. Et puis après, je me suis mise en contact avec une médecin nutritionniste. Et voilà. D'abord une diététicienne, puis une médecin nutritionniste. Et donc en fait, j'avais médecin généraliste, nutritionniste et psy. Autour de moi, mais en ville. Et ça me permettait de garder aussi bah, le contrôle sur ma prise en charge, ce qui m'aurait complètement échappé dans un cadre hospitalier. Voilà, donc j'estimais que ça n'allait pas me convenir, mais peut-être que je me trompais. Enfin, de toute façon, je n'ai pas expérimenté la chose. Et je dois tout à fait reconnaître que c'est absolument nécessaire, voire vital pour certaines personnes. Hein.
Donc, pour vous, ce qui était important, c'est d'avoir une pluralité aussi des approches.
Oui.
Finalement, qu'il n'y a pas qu'une, comme vous le disiez, il n'y a pas qu'une seule façon de soigner cette maladie. Il faut le voir dans plusieurs facteurs aussi, finalement.
Oui, oui, oui. Que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur, en ville, de toute façon, la pluridisciplinarité me paraît essentielle dans la prise en charge de ce trouble. Oui.
J'ai une question. Est-ce que le sport, dans le cheminement pour guérir de cette maladie, est-ce qu'il est à proscrire ou au contraire, est-ce que dans une certaine mesure, il peut aider à guérir ?
Oui, c'est une question intéressante. La plupart du temps, enfin, pour comment dire, pendant la première période de la rémission, le sport a tendance à être un petit peu... enfin, pas interdit, mais en tout cas, c'est pas forcément recommandé dans la mesure où il a été associé jusque-là, effectivement, à des techniques d'amaigrissement et des pratiques de contrôle. Et donc, en fait, c'est. Mais le fait de se réapproprier progressivement le sport comme quelque chose qui n'a pas pour finalité de faire perdre du poids, ça peut être intéressant. Et aussi, certaines pratiques en réalité corporelle, comme. Je sais pas, le fait de faire de la randonnée ou le fait de faire du sport, mais dans un cadre qui peut être assez épanouissant, permettent d'avoir justement peut-être un vécu du corps qui soit décorrélé, détaché de l'image corporelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le sujet sent son corps un petit peu de l'intérieur et ce que son corps lui permet de faire et d'éprouver plutôt que d'essayer de se représenter toujours l'image de son corps dans le regard de l'autre ou le corps objet. Donc c'est vrai que là aussi c'est un petit peu comme l'idée du massage, hein. Enfin, le fait d'éveiller le corps par des sensations qui soient un peu enfin qui soient précisément des sensations internes d'ailleurs et pas simplement l'interprétation d'un regard. Oui, ça peut être une pratique bénéfique, mais donc dans un certain cadre. Et je trouvais ça intéressant aussi ce que vous disiez sur le fait de garder le contrôle en un sens sur la thérapie, parce que ça montre bien que là aussi, la réponse à l'anorexie mentale n'est pas une réponse en tout ou rien. C'est-à-dire que, et c'est probablement le plus grand défi de la rémission, c'est que on a l'impression qu'il faut se débarrasser du perfectionnisme, qu'il faut se débarrasser en fait de tout ce qui constitue la personnalité anorexique pour aller mieux. Or en fait, la personnalité guérie n'est pas l'antithèse de la personnalité malade. C'est pas simplement arriver, voilà. et dans le pôle opposé. Et donc le fait d'apprendre à avoir un contrôle qui est peut-être de plus en plus relatif, mais de vouloir garder un contrôle malgré tout, c'est humain en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que vous avez l'air de suggérer vous-même que la perspective d'une hospitalisation peut être quand même assez mortifère, assez anxiogène. Donc le fait de vouloir garder un certain niveau d'investissement dans les études ou des pratiques voilà, qui appartiennent au sujet, de maîtriser un petit peu la façon dont sa thérapie se passe, c'est pas forcément la continuation de la maladie, mais ça peut être l'apprentissage que le contrôle c'est bien, mais dans une certaine mesure, et il y a des choses qui doivent échapper nécessairement au contrôle, et ça le sujet doit pouvoir l'accepter, le tolérer progressivement, mais le fait d'avoir un contrôle relatif sur son environnement, c'est quand même normal de le vouloir.
C'est ça qui doit être aussi difficile, c'est de trouver la juste mesure de devoir arrêter un surmenage de son corps et tout simplement le mettre pour soi et pour que ça soit bénéfique. Est-ce que, Sarah, est-ce que le sport, c'est quelque chose que dans votre parcours de soins vous faites, ou est-ce que vous l'avez totalement arrêté, ou est-ce qu'au contraire c'est encore difficile par rapport à une activité qui peut être très soutenue pour justement compenser? À quel stade est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ça?
Oui, mais il y a eu plusieurs phases, hein, mais j'ai toujours fait du sport, en plus des sports esthétique, où l'esthétisme compte. Hein. J'ai fait beaucoup de gymnastique, puis j'ai fait de la danse, j'en fais encore, de la danse classique. Donc là aussi, beaucoup de rigidité, c'est de la discipline, et le corps est vraiment soumis à une grande droiture, dans tous les sens de ce terme. Donc j'ai pratiqué le sport, j'ai dû l'arrêter un petit peu quand vraiment j'avais plus la force d'en faire. Et encore, je bougeais, hein, je me maintenais en mouvement, mais c'était une pratique plutôt douce. Et de toute façon, je n'étais plus en mesure. Enfin, je me souviens d'une fois où j'ai voulu prendre un vélo et je me suis rendu compte que pédaler était difficile, et une fois aussi où j'allais voir mon psy, il fallait monter un étage, et arrivée là-haut, j'étais très essoufflée, un étage, hein. J'étais essoufflée et je sentais que mes jambes avaient eu du mal à me porter jusque-là. Donc il y a un moment, j'ai dû ralentir et je n'étais plus en mesure de faire ce que je faisais. Et depuis, j'ai repris une activité beaucoup plus régulière et sûrement parfois encore trop intense pour ce que je peux faire. Mais rien à voir avec la phase un peu critique, on va dire.
Donc ouais. C'est revenu avec un rapport un peu plus sain entre la pratique physique que ce que ça a pu l'être auparavant.
Oui, si on peut dire les choses comme ça, oui, oui. Et le sport peut aider la personne aussi, enfin, parfois, quand j'y arrive, ça m'aide à me dire, bon, bah, j'ai besoin de m'alimenter, j'ai besoin d'énergie.
C'est important, ça, parce que justement, ça peut relier, en fait, parce que le sport, finalement, ça lie le corps, l'esprit. Et parfois, cette maladie, c'est aussi, comme on disait, la désappropriation de son corps. Et justement, ça peut peut-être aider à reprendre place dans cette enveloppe corporelle et à se le réapproprier, justement.
Oui.
Bah, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner, d'apporter des éléments essentiels à la compréhension de la maladie. Merci aussi à Jason Lindor à la technique. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission Mon Paris Santé. En attendant, portez-vous bien. Belle journée sur Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.